and listen to good sound.
A dangerous man from MI5.
And listen to good sound. And listen to good sound. And listen to good sound.
DJ Extravaganza presents.
This is Dolby Shelton.
My name is Mr. Sterling. I'm Chief Musician, Roland the Alphonse. OP, Art of Distinction.
Hi, this is Gary Crosby.
Well, this is Rico.
I'm Danny Crab.
I am Hans.
Wrong medication.
Hi, this is Matt Cassetti. Greetings, this is the Big Rastaman Maccabee.
This is Sister Kofu.
This is Eddie Tanken, speaking to you from Aswad Band.
Hi, this is Princey Ford from Aswad.
This is Carl Eaton, drummer of Ruddy.
Yo, this is Errol Flabberhole, bassman from Loose Radics Band.
Greetings, this is Pure Monster Emperor, alias Lasset Flores, Kings of Kings and Lord of Lords. This is Iron Man Skelly from Peaceful Vibration.
Well, yes, this is Daddy Ura.
Black Lee Scratch Perry and the Black Supermarket, Jungle Safari, saying hello.
This is Dark Dennis from Black Uhuru.
Hi, I'm Josh.
Hello, I'm Bunny.
We are the Mighty Diamonds.
DJ Extravaganza presents.
And don't touch the dial.
And listen to good sound.
Same.
Pirate.
Vous êtes bien calés sur les 101.1 et 93.8 FM de Radio MDM sur le Marsan, Banoche, Chalos, Tursan, sud du département. Évidemment, c'est l'émission Black Supermarket qui commence avec le sélecteur Toshiba au micro, côté technique. L'homme au 10 doigts, celui qui rayonne de son pouvoir céleste sur Radio MDM, il l'évite, vraiment. C'est un dieu, ou presque, fait homme. Bien, il s'appelle Lucas, et mesdames, voilà, c'est un cœur à prendre. Est-ce l'OKI à venir? Pourquoi est-ce l'OKI? Parce que nous allons parler du festival des 30 ans de la Peña Soldevilla. Ça se passe samedi 23 août aux arènes de Mont-de-Marsan. Une soirée festival sous la thématique du rock rugby tauromachie. Et on écoute de suite Esloquia est programmé dans cette soirée avec Estoy Volviendo Me Loco. C'est un classique de leur album La Mèche, sorti en 2014 sur leur label Bohémienne Productions.
Barcelona Catalogna Supermercado.
Yes.
Está siempre en mi cabeza, porque me toca.
Out. This is P-Dub from Predator Dub Assassins, and right now I'm chilling with Black Supermarket on Radio MDM 101.1 FM. Bless it up.
We'll be right back.
pour les amateurs de rock alternatif français, vous aurez peut-être reconnu la formation Chihuahua. Say It Baby, un classique de leur tout premier maxi éponyme Chihuahua, sorti en 85 sur le label GMG. Ça rajeunit pas certains d'entre nous. En tout cas, Chihuahua, non, mais Napo Romero sera prochainement avec nous au téléphone pour un petit interview, un entretien que nous allons partager. Napo Romero était guitariste chanteur de cette formation Chihuahua. On va en parler un petit peu dans, ben, évidemment, dans cet entretien qui arrive. Il est son actualité, c'est les frères de misère. On va en reparler évidemment tout au long de cet entretien. On écoute juste avant Lole Immanuel, Oliendo a Hierba Buena. C'est du flamenco. Et oui, pour changer, cet extrait de leur album Grandes Éxitos qui est sorti sur le label Sony Espagne en 1980. Lole Immanuel, une des références aussi de Monsieur Napo Romero. Alors, je suis au téléphone avec Napo, guitariste, chanteur. Napo, peut-être première question pour commencer, si cela ne te dérange pas, pourquoi tu t'es dirigé, je pense rapidement, vers la guitare, cet instrument ?
Bah, écoute, la guitare pour moi était liée à mes racines espagnoles. Et quand j'étais petit, j'ai eu un grand coup de cœur pour le flamenco en fait. J'écoutais tous les dimanches à la maison cérémonialement une émission de flamenco à la radio. Et pour moi, c'était qui était déraciné parce que je suis fils de républicain espagnol en exil. Ouais. Donc j'étais pas dans mon pays d'origine, donc j'avais une culture assez. La culture espagnole était très 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 prégnante chez moi. Tout ce qui venait d'Espagne m'intéressait énormément et me touchait énormément. Et le flamenco, ça a été un vrai déclic et c'était jouer à la guitare. Donc la guitare m'a beaucoup plu. Tout petit, j'ai voulu faire du flamenco, mais j'étais trop petit et bon, les profs m'ont pas accepté, m'ont dit non, déjà, faut que t'arrêtes de ranger tes ongles. Donc j'ai pas pu faire du flamenco comme j'aurais voulu à 6 ans. Voilà, j'ai commencé la guitare du coup à 9 ans, et pas spécialement avec le flamenco, mais j'ai toujours suivi le flamenco. Puis après, bon bah, les mouvements musicaux qui m'ont touché m'ont emmené vers d'autres musiques que le flamenco, mais et le rock entre autres, et le punk rock, mais voilà, à la base c'est ça.
Est-ce que Agüetas c'était une de tes références à l'époque?
Agüetas.
Oui.
Non, je l'ai rencontré plus tard, lui je l'ai rencontré à Madrid, chanteur de Jerez. Non, moi, non, à l'époque c'était un autre flamenco, beaucoup plus. C'était pas encore le flamenco joven, comme on dit, le nouveau flamenco. Ouais. C'était des trucs plus classiques. Moi j'aimais beaucoup Juanito Valderrama qu'on écoutait en famille, ouais. Des trucs comme ça. Et puis, non, je connaissais pas le nom en fait à l'époque. J'étais un peu petit quoi. Moi après, ma rencontre à moi personnelle, après plus grand avec le flamenco, ça a été Enrique Morente de Grenade et surtout Camarón de la Isla qui m'a beaucoup impressionné. Voilà, et Loli Manuel, ça a été un grand déclic aussi pour moi. Quand j'avais 12-13 ans, mon père m'a ramené un disque d'Espagne de Loli Manuel avec une batterie, une basse et tout. J'ai découvert que le flamenco en effet pouvait s'ouvrir à une modernité et ça m'a vachement plu. Ouais.
Donc de fil en aiguille, tu apprends à utiliser ton instrument, la guitare, et tu l'envie de créer des groupes. Il y a aussi la rencontre aussi avec la culture punk rock à la fin des années 70.
Ouais. Pour revenir quand même au départ, moi, mon frère, j'avais un frère, bon, il est plus là, mais j'avais un frère aussi qui jouait de la guitare et de la flûte. Et on faisait beaucoup de musique ensemble avec mon père tous les dimanches. On avait tout un répertoire latino. Et on faisait des petits concerts dans les écoles, dans les lycées, quand on était, quand on avait 12-13 ans, ma mère travaillait dans un petit centre culturel alternatif, et on faisait des concerts tous les samedis, on faisait les premières parties des artistes qui venaient jouer là-bas. Donc on faisait déjà des concerts assez jeunes. Et puis en effet, après, je me suis retrouvé à la rue vers 15 ans, avec le mouvement, dans le mouvement punk, là, en 77, j'ai eu un appel de la rue, j'ai quitté le foyer, et je suis allé zoner dans les squats, et j'étais punk et toute cette musique-là m'a beaucoup plu parce que j'aimais bien le côté do it yourself et facile à faire, trois accords, j'aime le rock quoi, en fait, j'aime la version, le punk rock me plaît beaucoup, pas le punk spécialement, mais le punk rock, ouais. Et donc j'ai commencé, et là, à l'époque, bon, dans les squats, impossible d'avoir une guitare sans se la faire braquer, donc c'était compliqué d'avoir un groupe, et j'ai rencontré Mano qui était pas encore solo, mais Emmanuel Cabu, ouais. Et qui m'a beaucoup hébergé parce que j'étais à la rue, j'étais quand même dans la zone et la misère. Lui, il avait une piole, donc pendant un ou deux ans, il m'a hébergé quand j'avais besoin. Et voilà, et j'ai appris à ce que je savais faire à la guitare, et on a commencé à composer des trucs ensemble. On avait un petit groupe qui s'appelait Gutter Rat, c'est un espèce de duo, on n'a jamais fait de concert, mais on a recouvert Paris de graffiti à l'époque, du Gutter Rat, les rats d'égout. Et bon, c'était radicalement punk, et voilà, on a commencé à écrire des textes en français, etc. Et après ça, bon, on s'est perdu de vue. Moi, j'ai fait les Chihuahuas, il est venu jouer dans les Chihuahuas. On l'a viré des Chihuahuas parce qu'il était insupportable des fois. Et puis, etc. On s'est retrouvés à peu près tous les 5 ou 6 ans pour faire des trucs ensemble. Et après, c'est lui qui m'a demandé de le rejoindre sur La Marmaille Nue, la tournée de La Marmaille Nue, son premier album solo. Après ça, on a fait son deuxième album solo ensemble, les années sombres. Et puis comme je le bassinais tout le temps pour qu'on refasse du punk rock, vu ses textes, je trouvais qu'il fallait qu'il fasse du rock, quoi. On avait besoin d'un auteur comme lui dans le rock. Et ben un jour, il a percuté, il m'a dit « Ouais, on va faire ça, mais ça s'appellera Les Frères Misères. » Voilà.
Et c'est comme ça qu'est né donc ce premier projet, dans les années 90.
Ouais, ça, en 95, on a fait ça et on est parti là-dessus. Donc c'était après ces deux albums solo, les deux premiers. Et ouais. Il voulait faire une parenthèse rock et puis ça tombait bien parce que ben moi j'avais les Chihuahuas avec moi comme groupe, tu vois, pour le faire ensemble. J'ai dit moi on va pas faire ça avec des requins studio, faut faire ça avec des vrais rockers. Donc on a fait ça avec les Chihuahuas, et c'était une idée de projet éphémère quoi. On était un peu énervé, comme on l'a toujours été d'ailleurs, avec ce qui se passait en politique, ouais. Et on avait envie de crier, voilà, de chanter la révolution et créer notre agent antifasciste qui est viscéral. Et donc un projet éphémère, on a été très vite, on a composé 15 morceaux en 15 jours, on a été voir sa maison de disque, ils ont dit banco direct, on est rentré en studio, je sais pas, 15 jours, un mois après, on a fait l'album hyper rapidement, et il est sorti hyper rapidement, on a fait 10 ou 12 concerts, je crois, on a fini au Bataclan, les concerts étaient complets, c'était sympa, et puis c'était fini, quoi, voilà, quoi. On a vendu 60 000 disques en 15 jours, 20 jours, là. on était super contents que cette musique-là puisse avoir un score comme ça, sans, tu vois, sans être obligatoirement dans les circuits alternatifs. C'était quand même une major qui l'a sortie, donc ça nous dirait de faire du punk rock révolutionnaire en utilisant l'argent des majors, quoi, tu vois. C'était c'est un peu la Sex Pistols, tu vois, c'est
une espèce de pied de nez.
Un pied de nez, quoi.
Dans un pays d'extrême droite, on se torche avec les doigts, y'a plus d'urnant pour ça. Dans un pays d'extrême droite, on s'inscrit pas aux syndicats, des syndicats y'en a pas. Y'a plus de pauvres, y'a juste l'État et les autres. Si t'es pas de la bonne couleur, t'es transparent. Dans un pays d'extrême droite, la justice porte le képi, peine de mort au coin de la rue. Dans un pays d'extrême droite, on y parle beaucoup de Dieu, parce que ça fait longtemps qu'il a quitté les lieux. La musique est militaire, ses instruments sont la haine et la guerre. Dans un pays d'extrême droite, tu dis pas non à tout bout de champ, ou alors au bout du champ de tir. Dans un pays d'extrême droite, les femmes peuvent bien avorter, mais un grand coup de baïonnette. On se torche avec les doigts, y'a plus d'urnes pour ça. Dans un pays d'extrême droite, on s'inscrit pas aux syndicats. Les syndicats, y'en a pas. La musique est militaire, ses instruments sont la haine et la guerre.
On vous aura prévenu.
Et justement, c'est quoi le moteur de relancer ce projet là en 2024-2025, de remettre en avant, alors pas Frères Misère, mais Frères de Misère.
Ouais, le 2 pour bien marquer la différence, qu'évidemment Mano n'est plus là, oui. On va pas s'appeler Frères Misère alors que Mano est pas là. C'est 2, ça veut dire le projet 2, comme un projet éphémère et conceptuel d'un collectif. Ce projet appartient à tous les membres des Frères Misère de la première époque. Le batteur aurait pu le relancer, je veux dire, toi Léon, oui. Mathieu au clavier, c'est un truc, c'est un concept qui est open, et c'est un endroit aussi, c'est un endroit culturel pour nous, pour dire les mots, et entre autres parler de politique, mais pas que. Et c'est la politique, moi, qui m'a motivé le plus à faire ce... Enfin, il y a plusieurs paramètres. Il y a la politique, parce que j'en peux plus de cette montée inexorable de l'extrême droite, donc qu'on dénonçait déjà il y a 30 ans, hein, c'est il y a 30 ans le premier projet. Et là, maintenant, les idées de l'extrême droite sont encore plus banalisées. Je pense que même que l'extrême droite est déjà au pouvoir, en tout cas l'agenda du pouvoir est dicté par l'extrême droite, et c'est insupportable. On a des ministres de l'intérieur là qui s'enchaînent, qui se suivent et qui sont encore de pire en pire. On a des Bolloré, des gens qui s'accachettent les médias pour distiller la haine, la division, c'est-à-dire tout le contraire de ce que nous on veut, quoi. C'est de ce qu'on voit et de ce qu'on connaît de la vie. C'est pas ça la vie, c'est pas ce qu'ils sont en train de qu'ils veulent faire croire au peuple français. Et il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, c'est un peu mondial ce phénomène de milliardaires là, qui veulent emmener les populations vers le fascisme et les nazis, quoi, tu vois, je veux dire. C'est, et les idées, des idées monstrueuses, quoi, de division et de haine et de violence. Donc moi, je revois les choses, moi qui étais punk, tu vois, je me dis, en fait, on a jamais fait mieux que Peace and Love, en fait, tu vois. La paix et l'amour, ouais, ça me parle, en fait, tu vois, c'est ça qu'on a besoin. Les peuples, on a besoin de paix et d'amour. C'est un punk qui te dit, je suis radicalement punk dans mon esprit, mais je te dis ça parce que, en effet, c'est à contre-courant, complètement, ouais, de ce qui se passe maintenant, dans une époque de haine et de division. Bah, et avec les scores de l'extrême droite, on y va tout droit. Il n'y a plus de contre... Nous, on n'a plus accès à la parole. Les artistes n'osent plus parler. quand ils parlent, bah, ils sont censurés de fait. De toute façon, les artistes, on les voit plus en médias. Et cette situation est terrible. C'est terrible, c'est on est dans un pays d'extrême droite. Comme on chantait dans notre premier album, on disait dans un pays d'extrême droite, on se torche avec les doigts parce qu'il n'y a plus de journaux pour ça. C'est le cas. Qui achète un journal, je veux dire. On lit des brèves, là, des espèces de trucs de 10 minutes, de 10 lignes sur un sujet sans développement, sans rien, qui nous emmène toujours vers une réflexion courte. C'est pas de l'actualité, tout ça. C'est pas de l'intelligence. C'est pas une façon d'aborder les choses de la vie et du monde, quoi. C'est terrifiant. Voilà, moi, je suis terrifié par ça. Et je me dis que si je suis tout seul à le subir devant un écran, devant je sais pas quoi, je me dis, bah, je peux pas être tout seul, en fait. On est plusieurs à penser comme ça. On a besoin de se fédérer, de se réunir. Et Frères Misère, c'est la réunion aussi de gens qui ont envie d'avoir cette vibration là, horrible, tout seul, et de ressentir qu'on peut rien faire, quoi. Dans nos concerts, tout le monde lève le poing, j'entends la révolution et ça fait du bien. C'est un truc, c'est thérapeutique, en fait. et si ça peut fédérer pour s'organiser, pour s'organiser même la lutte antifasciste, moi j'en serais heureux, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Il faut s'organiser, on peut pas laisser faire. On peut pas. On sait ce que c'est que le fascisme. Moi je suis fils de républicain espagnol, on s'est fait baïonnetter en Espagne. C'est une centaine de milliers de morts. Le fascisme, c'est la mort, c'est la haine, c'est l'horreur. On peut pas laisser faire. Les gens qui croient qu'on n'a pas essayé, qu'il faut essayer, ils ont tout faux. On a essayé, on connaît, on sait ce que c'est. C'est la violence, c'est la misère intellectuelle, c'est l'horreur, quoi. Donc oui, tout ça, c'est une motivation. Après, l'autre motivation que je voudrais aborder, c'est ma rencontre avec les gens qui font partie de Frères Misère maintenant, qui sont Mélis Mel, qui chante dans la nouvelle version. C'est Lolo Quebus, des Hurlements de Léo, qui chante, et Fredo des Oeufs de Barbac. Il y a une dizaine d'années maintenant, on a fait un hommage, une tournée hommage avec les Hurlements de Léo et puis plein d'invités. Pour rendre hommage à l'œuvre de Mano, oui, et qu'elle existe, et qu'elle, parce que Mano, bah, il passait plus nulle part, on n'entendait plus, et Mano, c'est un des grands poètes de notre génération, qui a touché plein de gens, même d'autres générations d'ailleurs, et il a une grande place dans l'écriture, dans la chanson française. Il ne peut pas disparaître comme ça, donc on a fait un hommage, et j'ai trouvé super belle la volonté de cette nouvelle génération-là de reprendre du Mano. Donc je me suis joint à eux pour le faire, c'est dommage. Pour moi, j'avais l'impression de fermer un peu une boucle par rapport à Mano, enfin, pas de fermer, mais de faire le tour de quelque chose, d'achever quelque chose. Et puis et j'ai trouvé qu'ils faisaient ça avec beaucoup de bienveillance et une vraie compréhension de l'écriture de Mano. Et donc pour moi, ça coulait de source qu'on ne pouvait pas remplacer Mano et qu'il y avait un collectif de chanteurs pour pas qu'il y ait de comparaison. Et donc on a pris 3 chanteurs pour faire ce nouveau projet, Frères de Misère.
Comme Mano nous chantait.
si je me trompe pas, il y a bien trois frères misères d'origine dans cette nouvelle formation.
Ouais. Léon à la batterie, Mathieu au clavier. On a appelé une amie, Lydia, qu'on a découvert, hein, on la connaissait pas avant, mais qui semblait être le bon profil pour faire la basse. Ouais. Et qu'on est bien content qu'il soit là. Et donc on est quatre musiciens et trois chanteurs. Voilà.
Alors justement, la chanteuse, c'est Mélisse Mel. Il me semble que dans la balade à Mano, la chanson, elle raconte qu'elle a rencontré Mano Solo à l'âge de 23 ans. C'est une vérité, un fantasme.
C'est une histoire vécue, ouais. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Elle s'est retrouvée backstage avec le chien sur ses pompes et Mano l'a ramené après le concert. Et elle devait faire des premières parties et Mano est décédé pas très longtemps après, malheureusement. Donc ils n'ont pas pu aller au bout du processus, ce qui est dommage parce que Mélisse May, elle a un truc de Mano qui est une espèce de rage de vivre et de raconter son ressenti profond, ce que fait pas tout le monde, en faisant fi de sa pudeur, quoi, ce qui était un des traits très propres de Mano, de caractéristiques de Mano, c'était de faire fi de sa pudeur et de dire sa vérité profonde. Ce qui était très touchant d'ailleurs. Et Mélisse May est comme ça aussi.
Vous avez enregistré un nouvel album de Frères de Misère.
Ouais, qui s'appelle La Seconde d'après.
Ça a été facile d'enregistrer cet album. Alors, peut-être pour creuser, il me semble qu'il y a deux morceaux avec le chant originel de Mano Solo. Est-ce que ça vient de démos? Est-ce que d'où viennent les bandes en fait? Comment tu les as récupérées, trouvées, gardées?
Mano, avant de partir, avait un projet qui s'appelait Misère Again. Il voulait faire du rock. C'était moins punk rock, c'était plus rock, pop rock. Mais il avait envie aussi de retrouver une vibration plus rock que de chansons françaises avec l'accordéon, tout ça. Et donc il avait ce projet Misère Again avec Daniel Jamais, Ben Abord, d'autres musiciens. Et il y a une personne qui a récupéré les disques durs, qui m'a contacté en me disant « Ouais, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire ?» Je lui ai dit « Écoute, moi, j'ai envie de refaire un projet Frères Misère. » J'ai écouté les morceaux, il y avait une dizaine de morceaux assez approximatifs, tu vois, des premiers jets, quoi, on dirait. Ouais. Mais il y avait la voix de Mano, et il y en a deux qui nous ont plu, vraiment. Ils sont la seconde d'après, qui donne le nom de l'album, d'ailleurs. Il y a un autre qui s'appelle « Le doigt en l'air », que j'ai trouvé très conceptuellement punk et qui pouvait vraiment entrer dans l'album de Frères Misère, en gardant un peu ce concept qu'on avait déjà en 96, donc de punk rock. Et on s'est dit, voilà, on va reprendre la voix, on va refaire la musique dessus, parce que c'était pas très bien fait. On a gardé une des guitares quand même, qui était bien, de Daniel et Ben. Et puis on a remis basse, batterie, clavier. On a fait comme si c'était un morceau de l'album, du nouvel album, en nettoyant un petit peu la voix, parce que c'était un peu... enregistré crado, on a réussi à avoir un traitement sur la voix de qualité. Et voilà, les deux morceaux sont dans l'album et c'est un peu la cerise sur le gâteau de pouvoir proposer ça aux gens de Mano, d'entendre deux inédits avec Mano, avec sa voix, ses textes, sa verve. Et ils sont bien, ils sont super les morceaux.
Oui,
donc moi je suis super content qu'il y ait ça et qu'il soit sur l'album. Mano, il est avec nous, quoi.
Juste une guitare qui réveille les morts. Je le sens dans tout mon corps. Finalement je n'ai que 15 ans. J'ai tout devant moi. Je suis prêt pour le combat. Un sourire encore.
Et justement, cette tournée Frères de Misère, qui, alors, là, c'est la période estivale. Vous avez encore des dates, il me semble, jusqu'à début octobre, si je ne me trompe pas.
Non, jusqu'à fin août. Fin août, il nous reste 3 concerts, en fait. Donc, il y a le 23 août, on est à Mont-de-Marsan, là, aux arènes.
Bien sûr.
J'ai bien compris, ou des arènes, je ne sais plus exactement. Et puis, on a 2 autres dates, là, je ne pourrais pas te dire par cœur où elles sont, là, je suis un peu déconnecté de mon planning là tout de suite. Oui. Mais comme l'album est sorti un peu tard, il est sorti le 6 juin, là, quand on faisait la date à Paris au Trianon, on n'a pas eu le temps de vraiment le travailler ou d'en récolter un peu les fruits, quoi. Tu vois, les gens ne connaissent pas vraiment l'album quand ils viennent au concert, ils connaissent le premier album mais pas le deuxième. Oui. Il y a une petite frustration pour nous de jouer comme ça. Même si c'est super de pouvoir jouer les anciens et les nouveaux morceaux, mais donc on a décidé avec le groupe et notre tourneur Rage Tour de rajouter des dates pour 2026. À partir de février 2026, on va essayer de faire une vingtaine de dates qui sera un peu moins des festivals et un petit peu plus des salles et des clubs en ville, quoi.
Voilà. D'accord.
Pour finir le.
Ben finir la tournée et la
ouais,
promotion de l'album.
Finir aussi. Avec cet album-là, qui pareil, ça sera un concert éphémère, on ne va pas continuer à faire ça 5 ans. Mais voilà, et puis peut-être dans 30 ans, on fera un hiver 3. Mais pour l'instant, ça va être ça, quoi.
D'accord, là, il n'y a pas de projet de nouvel album derrière ou d'autres tournées plus des dates de 2026.
Il y aura toujours l'envie de continuer à faire du punk rock et avec ce concept. Politico-réalisto-politico, mais je pense que chacun a aussi ses projets de son côté. Là, c'est une réunion d'artistes, c'est une espèce de super groupe, comme on disait avant, ouais. De gens qui viennent, qui ont des albums. Tout le monde sort un album en septembre, là déjà. Billy Smith sort un album, Les Hurlements sortent un album, Les Ogres ont une carrière hyper poussée avec vachement de travail. Bon, moi, je vais me retrouver dans la zone, mais c'est pas grave. J'ai Flore Del Fango, on est en train de faire un projet Flore Ifango avec une formule plus légère pour pouvoir faire plus de dates dans des petits lieux. Ouais. Enfin, voilà, chacun va retrouver ses activités. Voilà. Et donc voilà. Puis côté éphémère est plutôt sain, en fait. Pour faire ce genre de projet-là, on n'est pas là pour gagner du pognon, pour se faire une carrière. Voilà, c'est un cri, en fait, Frères Misère. C'est une parenthèse criée, quoi, dans notre vie.
Alors, si mes souvenirs sont bons, vous concluez votre set des Frères de Misère avec cette chanson, cet hymne dans un pays d'extrême droite. Ouais. Et j'ai eu le plaisir d'entendre beaucoup de chants du public avec vous, donc ça fait plaisir.
Ouais.
C'est vraiment un final que je trouve bien antifasciste et à propos.
Ouais. Ouais, c'est l'idée, on n'est pas là pour compter fleurettes, on est dans une réalité, et c'est notre réalité de tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui sont insupportables dans notre pays, là, avec cette droitisation de la France et des pensées, le rejet est horrible, le racisme c'est horrible, comment on traite les gens c'est terrifiant, parce qu'ils sont différents, voilà.
Et donc on va essayer de se retrouver tous ensemble, ça sera le samedi 23 août aux arènes de Mont-de-Marsan. Vous êtes en concert avec Slokei et les Clanks, Abilify Fly, Frenetic Dancing, Colyman, The Chemise Froissée, etc. Il y aura des DJ sets. Voilà, j'espère qu'on fera Collusion, Love and Peace. Comme tu l'as dit tout à l'heure, peace and love.
Pas que, parce que c'est un combat, la paix et l'amour. C'est pas un truc où on se fait marcher dessus, il faut se battre pour ça. Ça fait partie du combat, la paix et l'amour. Ouais. Ouais, carrément, j'espère que ça... Oui, puis j'espère que tout le monde viendra et qu'on sera en communion tous. J'aime pas ce mot, mais en communion avec notre public, ouais, complètement.
Et Mano, tu pourrais pas un peu descendre de ton trône, de là-haut? Ça fait 15 ans du matin. Tu verrais la gueule de notre pays. Tu nous manques. J'avais 25 ans quand nous nous sommes rencontrés. Je faisais la manche du côté de la liberté. Oh, Capucine m'avait donné rendez-vous tes frangins, un concert, je ne sais où, un regard jeté en l'air, ton nom m'apparaît, tout à coup, j'ai mis les chevaux à terre, l'Olympia est debout, j'ai chialé ma race. Et chanter toutes tes chansons tant que tu décrases souvenirs collés au balcon. Le show fini, ton chien calé sur mes grolles en backstage toute la nuit. Le destin, la même école. Et sur la tête de mon frère, ouais, je te jure que j'apprécie la vie, car après toutes les misères, mon enfance en sursis. Combien de gens se jettent du pont, passent à côté de ta putain de voix, chacun s'accroît son canon, je continue ce qu'on de combat. Tu devais être myope pour ne pas voir que je t'aimais. Tu ma prise en stop après le clou de la soirée.
Je suis Napo Romero, le frère de misère, et je suis là sur Radio MDM, fréquence 101.1 et 93.8.
C'est pas la rue qui t'a choisi, c'est toi qui as choisi la rue. N'oublie jamais, belle endormie, la rue se voit comme un grand cru. On la consomme jusqu'à la lie, quitte à y perdre un peu sa vie. Frère Loisillon, tombé du nid, te transforme pas en vieille. La rue c'est nous, la rue nous perd. La rue nous enfouit ou la rue nous enterre. La rue c'est nous, la rue colère. La rue des
Toujours dans l'émission Black Supermarket sur Radio MDM. On vient d'écouter successivement, pendant les interludes entre les phrases de Napo, les Frères Misère originaux. On vous aura prévenu, extrait de l'album Frères Misère de 1996, sorti sur le label East West. Ensuite, Frères de Misère, la nouvelle formation et leur album La Seconde d'après, sorti sur le label Vericord. C'était le titre Aimé. Encore Frères de Misère, Le Doigt en l'air. Toujours d'extrait de ce super nouvel album La Seconde d'après. Frères de Misère, le titre Balade pour Mano, toujours extrait de La Seconde d'après. Et encore Frères de Misère, La Rue, toujours du même album, chaudement recommandé, vous l'aurez compris. Alors les Frères de Misère sont à l'affiche, et en haut de l'affiche même, de ce festival 30 ans Peña Soldevilla aux arènes du Plumasson à Mont-de-Marsan. Ça démarre à 14h, ça finit à 2h du matin. Frères de Misère, S.L.O.K.I., Clonks, Abilly Fly, Frenetic Dancing, The Chemise Froissée et peut-être des surprises. C'est évidemment sous le signe, j'espère, du festif et de la bienveillance. On conclut cette émission avec deux groupes locaux, des rockers évidemment, les Clonks avec Miss Dynamite. C'est le tout dernier simple titre téléchargeable sur toutes les bonnes plateformes. C'est produit par Boomerang Records d'Air sur Adour, et puis Abilly Fly, le titre Malgré, en autoproduction. C'est extrait de leur album, le dernier en date, Ultimum Zero, sorti en 2024. C'est avec ces deux titres qu'on se quitte. On se donne rendez-vous comme tous les mercredis à 11h et tous les samedis à 19h sur Radio MDM. Évidemment, ciao ciao, bye bye, à la semaine prochaine.